Si vous avez vos Bibles, ce qui serait une bonne chose, je vous invite à ouvrir la Bible donc dans Daniel, la prophétie de Daniel, au chapitre 3, et de garder le texte ouvert devant vous, donc pour la lecture et pour y faire référence tout à l'heure pendant la prédication. On va voir aujourd'hui la foi face à la fournaise ardente. Et vous connaissez peut-être, si vous êtes dans l'église depuis l'enfance, vous avez entendu sans doute cette histoire. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ, d'accord? Pour revenir loin en arrière, il y a un homme, un roi, Nebuchadnezzar, qui règne sans partage sur l'empire babylonien. Un empire immense qui s'étend des frontières de l'Égypte jusqu'à l'Irak actuel, en passant par la Terre Sainte, la Jordanie, le Liban, la Syrie. Il y a des gens de toute langue, de toute culture, qui sont soumis à son règne. Il dirige une administration puissante. Et ce n'est pas qu'un fils à papa, c'est un chef de guerre. Il a conquis, avec ses armées, une grande partie de ses territoires. Mais pourquoi parler de Babylone? Pourquoi parler d'un roi païen? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être à Jérusalem, dans la terre promise, en train de voir le peuple de Dieu adorer Yahweh, dans le Seigneur, dans son temple? On est en train de lire la Bible, n'est-ce pas? Mais vous savez, parce que vous avez lu justement la Bible, que le temple a été détruit justement par Nebuchadnezzar, par ses armées babyloniennes qui sont arrivées. Les ustensiles du culte ont été emmenés. Le peuple de l'ancienne alliance a été emmené en exil, parce qu'il a rompu le contrat d'alliance. Et conformément à ce que Dieu avait annoncé, le jugement prend la forme d'un exil, loin de la terre promise, loin de la présence même de Dieu, qui était représentée à l'époque par le temple. Donc le peuple d'Israël est dans l'incertitude, il est loin de sa maison, et le système des sacrifices n'a plus lieu. Comment est-ce que Dieu va pardonner les péchés? Alors, on va regarder ce matin comment le peuple de Dieu doit apprendre à vivre en territoire étranger, au milieu d'une société qui ne veut pas de lui. Est-ce que Dieu va se souvenir de ses promesses à Abraham, même au-delà de cet exil? Est-ce qu'il va rétablir vraiment la situation comme il l'a promis? Comment est-ce qu'on fait en attendant pour vivre avec la foi dans le vrai Dieu, dans un monde où ce Dieu n'est pas reconnu? Et du coup, vous voyez, pour nous, ce matin, c'est aussi une question importante, bien des années plus tard. Une question de plus en plus pressante, même, il me semble, pour l'Église. Non seulement cette partie de l'Église directement persécutée dans plus d'une cinquantaine de pays du monde, mais aussi pour nous qui nous trouvons en France au XXIe siècle, dans une société où le pluralisme, la diversité des vues est en même temps pas bien vue et en même temps mise en avant, où dans ce pluralisme-là, l'exclusivisme de notre foi, comme ces paroles que vous connaissez très bien de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Alors ça, c'est offensant dans nos sociétés. Ou alors, et vous savez aussi que les libertés individuelles sont de plus en plus grignotées pour un vivre ensemble qui est toujours plus formaté et où on encourage tout le monde à vivre de la même manière. La question posée par Nebuchadnezzar à trois croyants il y a bien longtemps est toujours d'actualité. Quel est le Dieu qui nous délivrera? Alors on va voir ce matin l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et l'histoire de la fournaise ardente. Et il y aura trois grandes parties. On va voir l'institution d'un système mondial d'opposition à Dieu qui se met en place à cette époque. Et il y a le même désir qu'au début de l'humanité de s'élever au-dessus de Dieu pour échapper à son jugement. On va voir dans une deuxième partie que si notre foi est mise à l'épreuve, nous pouvons la mettre en œuvre comme Shadrach, comme Meshach et Abednego. Et on va voir finalement la délivrance accordée par Dieu au travers de la fournaise qui prouve qu'une telle foi en Dieu est de loin une foi qui est solide, garantie. tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction, pour notre consolation et notre encouragement. Prions juste rapidement que Dieu, par sa parole, fasse cela en nous. Seigneur, on te prie que tu ouvres nos oreilles, nos cœurs, notre intelligence, notre entendement, pour que ce récit, cette foi de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, ces paroles que tu as voulu qu'ils soient inscrites pour notre enseignement, elles puissent atteindre notre cœur, notre âme, la nourrir, nous réconforter là où on doute, nous consoler là où on est blessé, et nous donner une perspective, nous donner une vision pour la suite. Que tu soutiennes notre foi ce matin par ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 3, lisons ensemble. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue de Nebuchadnezzar que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Roi, puisses-tu vivre toujours ? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se présenter et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu alors qui pourra vous délivrer de mon pouvoir ? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé, se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes, dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le quatrième ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés. Ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voyez comment au début du passage, on assiste en maquette à l'institution d'un système mondial d'opposition à Dieu. Au début de notre passage, on trouve l'empereur Nebuchadnezzar bien affairé. Comment assurer son pouvoir? Comment rassembler tout le monde sous son image? Comment empêcher le renversement de son royaume, qui a été annoncé d'ailleurs par un songe et l'explication donnée par Dieu au travers de la bouche de Daniel? Si vous voulez plus de détails, lisez juste le chapitre 2 où Nebuchadnezzar est agité et on annonce à Nebuchadnezzar par Daniel, c'est Dieu qui fait ça, que son royaume va être renversé, qu'il ne va pas tenir, son temps est limité. Alors on doit se poser la question, pourquoi toute cette agitation de Nebuchadnezzar? Est-ce qu'il ne serait pas en train de refuser ce que Dieu a annoncé? En tout cas, il y met les grands moyens. Vous voyez, il se jette à fond dans cette tâche. Ça lui coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Ça coûte énormément. Il y a une grande statue, 30 mètres de haut, 3 mètres de large, entièrement en or. Il faut de la préparation, il y a de l'organisation. Ça ne s'est pas fait en un jour, cette statue. Donc, il a fallu mettre en route des équipes. Et il a fallu organiser l'inauguration. Il fallait du temps, de l'énergie pour cela. Et voyez combien c'est fait en grande pompe. Tout le monde est là, les peuples, les nations, de toutes langues. Des gens ont voyagé, ont consenti à des sacrifices, ils ont laissé tomber leur boulot pour aller répondre à cette convocation de Nebuchadnezzar. Ils ont laissé tomber la famille pour répondre à cette invitation de Nebuchadnezzar. Ils ont laissé tomber leurs affaires quotidiennes pour cette convocation de Nebuchadnezzar. Et puis, tout l'orchestre est là. Il y a un grand programme culturel, une musique, une célébration pour que chacun se consacre à l'empereur et à son empire et à ses dieux. Et vous entendez la voix du héros qui crie, il y a un commandement à se soumettre au roi, à se soumettre à ses dieux. Peut-être ça peut nous surprendre, le roi en premier, ses dieux en deuxième, mais en réalité dans l'idolâtrie c'est comme ça que ça fonctionne, c'est toujours l'être humain en premier. Et même s'il a des dieux, ses dieux sont ses serviteurs. On sert les dieux, on sert les idoles pour obtenir quelque chose en retour. Donc c'est du marchandage, d'accord ? C'est du paiement pour un service en retour. Un petit peu d'offrande de riz et j'aurai la protection. Un petit peu d'argent et j'aurai la santé. En réalité, c'est bien l'homme, Nebuchadnezzar, qui est en train de se glorifier, de se mettre en avant, de s'élever au-dessus de tout ce qui pourrait s'appeler Dieu. Et voyez, il y a un commandement d'adorer son image. C'est celle du roi Nebuchadnezzar, mais en réalité, vu la hauteur de cette statue, peut-être un immeuble de, j'essaie de réfléchir, peut-être entre 9-10 étages, peut-être 30 mètres de haut, 3 mètres de large, c'est un peu lointain. Je suis sûr que Nebuchadnezzar s'est présenté sous son bonjour, d'accord ? Et quelque part, c'est détaillé, mais pas trop, et tout le monde peut se projeter dans cette image. Et finalement, le fait d'adorer, de se prosterner devant cette image n'est pas trop compliqué parce que ça flatte aussi l'ego de chacun qui est là. Et voyez que ce sont les mêmes mensonges que dans le jardin d'Éden, mais puissance, humanité rassemblée. Depuis la chute, on en est toujours là. Au lieu de revenir à Dieu, le roi de l'univers, le créateur, dans la repentance, nous, êtres humains, à la suite d'Adam, à la suite des hommes et des femmes de Babel, nous contestons inlassablement contre Dieu. Et vous rappelez ces trois mensonges. Dieu a-t-il réellement dit ? Certainement, la parole de Dieu n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air, on peut s'en arranger. Si Dieu a dit que le royaume de Babylone avait un temps limité, c'est pas grave, nous on sait mieux. Certainement qu'on peut s'arranger de cette parole, certainement qu'on peut dépasser cette parole. Vous rappelez le deuxième mensonge, Dieu est-il bon ? Puisqu'il vous empêche de faire ce que vous voulez, puisqu'il vous empêche, dans le jardin d'Éden, de manger de ce fruit qui donne le pouvoir de décider ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Qu'est-ce que Dieu peut m'empêcher de me glorifier ? Qu'est-ce que Dieu a à dire quand je construis une image de moi-même et que je l'adore ? Est-ce que je n'ai pas le droit de m'aimer un peu ? Dieu n'est pas bon, puisqu'il veut l'exclusivité de cet amour. Et vous rappelez le troisième mensonge, vous pouvez être égal à Dieu. Pourquoi vous restez soumis à Dieu ? Mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Vous n'avez pas besoin de Dieu, Dieu n'est pas souverain, son pouvoir n'est pas légitime. Prenez le pouvoir. Et c'est la même chose que Nebuchadnezzar est en train de faire. Et il invite toute l'humanité, en tout cas tous ceux de son royaume. Et voyez, il y a toute langue, tout peuple, toute nation. C'est en maquette réduite ce qui est en train de se passer dans le monde depuis le commencement. C'est à ces trois mensonges aussi que nous nous retrouvons confrontés souvent dans notre vie. Qui allons-nous croire ? Ces mensonges ou la parole de Dieu ? Allons-nous croire le Dieu unique, totalement à part de tout, le Dieu souverain et bon, ou retrousser nos manches, nous considérer comme nos propres dieux et tenter de renverser Dieu, d'annuler son juste jugement sur nous du fait de nos fautes et de notre attitude rebelle ? Et les demandes d'allégeance dans la société sont très grandes. D'ailleurs, il vaut mieux se conformer au monde, ou alors c'est s'exposer à des risques terribles. Dans le monde musulman, vous savez aujourd'hui, si quelqu'un choisit de sortir du cadre de la société, du cadre familial, du cadre de l'islam, il s'expose à des grands dangers. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort sociale ou familiale, le rejet du cercle familial. Et c'est une souffrance, c'est quelque chose de terrible. Ici aussi, à Cavaillon, ne pas courir après les mêmes choses que les autres, c'est s'exposer à des risques. Peut-être être licencié, ou refuser de participer à des magouilles. Peut-être, ça peut être difficile au niveau familial, parce que ce n'est pas que dans l'islam. Je connais une dame qui était catholique, très engagée, toute sa famille très engagée dans le catholicisme, et au moment où elle est venue à la foi véritable en Christ, elle n'a plus été invitée. Jamais dans sa famille. Elle a été mise au banc de sa famille. Une jeune fille chrétienne aussi que je connaissais en Alsace qui avait postulé pour une école d'éducatrice, d'éducateur. Tout allait bien dans l'entretien jusqu'à ce que, après les diplômes qu'elle avait déjà acquis, les formations scolaires qu'elle avait déjà eues, l'examinatrice s'est intéressée un peu à sa vie en dehors et elle a été intéressée par une ligne de son CV où elle voyait que cette jeune fille avait été en Afrique, et qu'elle avait été dans un hôpital, elle avait participé à une mission humanitaire. tout allait bien. Ah, mais ça, c'est magnifique. Quelle ouverture d'esprit, quelle générosité pour un éducateur. Ça, c'est des qualités qu'on cherche. Tout allait bien jusqu'à ce que elle pose la question, mais c'était dans quel cadre? Ah, c'était dans le cadre d'une mission chrétienne. Et je suis parti là. Et là, d'un coup, le visage de l'examinatrice a changé et elle a recalé cette jeune fille chrétienne. Elle n'a pas pu intégrer l'école alors que, voilà, manifestement, tout était au vert précédemment. Notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi va être mise à l'épreuve, même ici, à Cavaillon. Votre foi a déjà été mise à l'épreuve, vous le savez. Mais nous pouvons la mettre en œuvre. Voyez comment ça se passe pour Shadrach, Meshach et Abednego. Profitant de l'occasion, justement, un certain nombre de personnes cherchent à créer du trouble. Ils ne vont pas laisser tranquille. Il y a des motifs de jalousie, tiens, ça fait peut-être écho à ce qu'on a vu en groupe de partage cette semaine. Une bonne occasion de se débarrasser de ces membres du peuple de Dieu. Et peut-être même une bonne occasion de prendre leur place dans l'administration de la province de Babylone. Voici que trois accusations sont portées contre Shadrach, Meshach et Abednego. La première, vous ne respectez pas la loi. Vous ne tenez pas compte des ordres. Vous ne vous soumettez pas au roi. De quel droit vous vous considérez à part des autres? Je me demande jusqu'à quel point les évolutions en France sur les questions éthiques, autant que les évolutions dans la société, pas dans la loi encore, mais dans la société, dans la manière que les gens raisonnent en ce qui concerne la laïcité, la possibilité d'exprimer en public sa foi et ses opinions, devient de plus en plus une source de complications pour nous. La deuxième accusation qui est portée contre les trois hommes, c'est « Vous ne servez pas les dieux ». Mais pourquoi vous faites ça? Vous allez nous attirer le malheur. C'est de votre faute s'il nous arrive des problèmes. C'est vous mettez nos dieux en colère. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui estiment que la communauté chrétienne, véritable, parce qu'elle ne suit pas tout à fait le mouvement général, peut attirer le malheur ou les problèmes dans la société. Troisième accusation, vous ne vous conformez pas à nos pratiques. Vous ne courez pas après ce vers quoi nous courons. Vous n'aimez pas ce que nous aimons. Alors, vous ne nous aimez pas. Vous savez, quand tout le monde court après des choses mauvaises, quand tout le monde se met d'accord pour faire une bêtise, rappelez-vous quand vous étiez enfant, puis il y en a un qui a un petit sursaut de « Non, on ne peut pas faire ça. Papa a dit, ou maman a dit. » Ah, qu'est-ce qui fait râler celui-là, hein? Parce que le groupe, du coup, sait ce qui est vrai. Il sait qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir et qu'il est justement en train de le faire. Donc même quand on décide de se tenir à l'écart, de ne pas participer, on est de toute façon en train de dire quelque chose aux autres. Vous ne faites pas ce qui est bon, ce qui est bien. Si certains ne participent pas avec le reste de la société dans les domaines où, parce que par respect pour Dieu, ils ne veulent pas faire ça, alors ils sont le signe, ils sont la réalité qu'il y a une autre alternative. Et donc, pareil, pour les chrétiens persécutés aujourd'hui, beaucoup sont accusés d'être des traîtres, ils sont poursuivis parce qu'ils ne veulent pas se joindre à un mouvement national. Beaucoup de chrétiens persécutés sont du coup relégués, traités comme des citoyens de seconde classe, maintenus dans la pauvreté. On ne voudrait pas les voir, on veut les mettre dans des ghettos, parce que si on les voit vivre au milieu de nous, ils vont nous rappeler qu'est-ce que c'est vivre pour le vrai Dieu. Et vous connaissez Asia Bibi peut-être, cette dame qui est condamnée à mort pour soi-disant avoir blasphémé contre l'islam, contre le prophète et le Coran. Et plusieurs ont pris parti pour cette dame. Par exemple, le gouverneur du Pendjab, Salman Taseer, qui avait publiquement défendu Asia Bibi. Eh bien, il a été assassiné il y a quelques années de cela. Shahbaz Bhatti, là aussi, ce n'était pas quelqu'un de la rue, c'était quelqu'un qui était important. Le ministre fédéral des minorités religieuses au Pakistan, un chrétien, lui aussi a été assassiné parce qu'il avait pris la défense d'Asia Bibi et appelé à un changement de la loi sur le blasphème. et nous en Provence. Quelles sont les choses qui demandent notre allégeance? Quelles sont les demandes de la société autour de nous? Et la grande question pour nous, c'est de savoir, est-ce que des êtres créés à l'image de Dieu, des êtres humains comme vous, comme moi, est-ce que des êtres créés à l'image de Dieu vont se prosterner devant l'image fabriquée par les hommes? Ou est-ce qu'ils vont rester fermes à vouloir ressembler à leur Créateur? Notre foi est mise à l'épreuve, elle va être mise à l'épreuve, mais nous pouvons la mettre en œuvre. Nebuchadnezzar demande alors à Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce de façon délibérée que vous n'obéissez pas? Quelle bonne raison avez-vous de ne pas vous prosterner devant ma statue, mon image? Et vous voyez la réponse de ces trois hommes. La question n'est pas de savoir si oui ou non on veut obéir à toi, ô roi. Il y a une question qui te dépasse, qui est plus grande que ça. La question, c'est que Dieu règne. Et nous, on veut rien faire qui est contraire à lui, à sa volonté. On veut l'honorer lui en premier. Voyez sur quoi s'appuie la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ils connaissent Dieu. C'est notre Dieu, disent-ils. Ils savent que Dieu est puissant. Et la question pour eux, ce n'est pas leur propre vie et confort, c'est l'honneur de Dieu. Peu importe, dans un sens, si Dieu décide de nous délivrer maintenant, nous, nous préférons rester dans sa main et faire sa volonté, car au final, il nous délivrera du pouvoir des rois de ce monde et même de la mort. Nous préférons la communion avec Dieu plutôt que notre propre santé, plutôt que notre prospérité, plutôt que tout ce qui demande notre affection ici-bas. Et voyez, face à cette réponse, le visage du roi Nebuchadnezzar change. En fait, littéralement, c'est l'image de son visage change. C'est un jeu de mots avec ce qui se passe au début où Nebuchadnezzar fait fabriquer une statue à son image, sans doute un peu souriante, un peu ferme, mais avec un petit sourire quand même, forcément à son avantage. Mais voilà le vrai visage du roi. Le vrai visage du roi, mais on va aussi voir le vrai visage du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Très-Haut. Le vrai visage du roi, c'est la colère, la haine contre tout ce qui s'élève contre lui, même s'il s'agit de Dieu. Car en réalité, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont que des serviteurs fidèles. Ce ne sont pas eux qui veulent faire de la résistance en leur nom ou en rapport avec leur ethnie, parce qu'ils sont juifs ou autre chose comme cela. Mais c'est en tant que soumis au Dieu créateur, au véritable Dieu. Alors, Nebuchadnezzar se fâche, il montre son vrai visage. Et vous avez déjà expérimenté ça, vous avez déjà servi des idoles dans le passé. Et au début, elles paraissaient attrayantes. Mais plus vous avez servi ces idoles, et d'un coup, leur vrai visage vous est apparu. Celui de l'emprisonnement, celui de l'esclavage, celui de la haine, celui de la destruction de votre propre âme, de votre propre cœur, même de votre corps. Les idoles finissent toujours par montrer leur vrai visage, et c'est un visage hideux. Mais Dieu, lui aussi, il montre son vrai visage, son caractère. Voyez, bien que jetés dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego ne meurent pas. Ils ressortent indemnes. Le Dieu unique, élevé au-dessus de tous les dieux et puissant, il veille sur ses enfants. Et même dans des circonstances exceptionnellement difficiles, voyez l'insistance de Nebuchadnezzar, on va faire chauffer cette fois, c'était extraordinairement chauffé, on n'avait jamais vu ça. La plus pire difficulté, la chose impossible à vue humaine. Mais Dieu délivre ses enfants dans ces circonstances. Il n'est pas étonné, il n'est pas surpris, il n'est pas dépourvu. Il reste maître de la situation. Et il rend libre ses serviteurs. Voyez, ils sont tous ligotés, ils sont jetés ligotés dans le feu. Mais qu'est-ce qu'ils voient, Nebuchadnezzar? On les a jetés liés, mais en fait, ils sont en train de marcher. Ceux qu'on croyait les plus à plaindre, c'est eux qui sont libres. Ceux qu'on croyait pouvoir détruire, c'est eux qui sont en train de vivre. Et voyez, les soldats, quand ils ont répondu à l'ordre de Nebuchadnezzar, eux ont été happés par les flammes et ils n'ont pas survécu. Croire Dieu et sa parole, c'est toujours être libre et recevoir sa vie. Dieu est bon, il aime ses serviteurs tellement qu'il n'agit pas de loin. Vous avez remarqué ça aussi dans le passage? C'est pas comme si d'un coup il y a une voix qui résonne dans le ciel. Oh Shadrach, Meshach, Abednego, je m'occupe de vous, ne vous inquiétez pas. Non, Dieu envoie dans la fournaise son envoyé même pour être avec Shadrach, avec Meshach, avec Abednego, au milieu des flammes. Vous vous rappelez peut-être le psaume 34 et plein d'autres psaumes et plein d'autres passages dans l'Écriture. Dieu est proche de tous ceux qui le craignent, qui marchent selon ses préceptes. Le roi David en avait fait l'expérience plusieurs centaines d'années avant. L'apôtre Paul nous dit « Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu » en Romains chapitre 8. C'est l'expérience des croyants des temps anciens et des temps présents. Regardez aussi combien nos frères et nos sœurs persécutés expérimentent, vivent cette liberté en Christ, cette délivrance, cette vie que communique Dieu même au milieu de la souffrance. Et c'est ça qui me plaît dans l'Église persécutée. Parce qu'il y a des témoignages, c'est vrai, douloureux, tristes, où on ne voit pas une délivrance immédiate. Mais toujours, on voit Dieu qui est présent, Dieu qui fait du bien, Dieu qui bénit, Dieu qui étend l'Évangile et l'Église, Dieu qui continue de sauver les personnes qui ne le méritent pas. Alors, le vrai visage du roi Nebuchadnezzar apparaît à la fin de l'histoire, enfin, à ce moment-là, quand il se fâche, quand il envoie Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Mais aussi le vrai visage de Dieu, on le voit. Il est rendu visible par la foi des trois hommes. Pour résumer, et pour que vous puissiez repartir avec trois applications, laissez-moi terminer de cette manière. D'abord, courage. Courage et confiance. Parce que la réalité, peut-être pas super visible à vue humaine, mais la réalité, c'est que Dieu règne au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Dieu règne à tout jamais. Il limite le temps des empires. Il limite le pouvoir des rois. Ce qui se passe à l'époque de Daniel n'était qu'une répétition à petite échelle de ce qui est, à plus grande échelle de ce qui avait déjà eu lieu en Éden et à la tour de Babel. D'ailleurs, on est à Babylone, d'accord, donc c'est dans le même élan. Mais c'est aussi encore plus petit que ce qui arrive dans la fin des temps. Lorsqu'on lit la suite du livre de Daniel, en particulier les chapitres 7 à 12, on comprend que ce qui arrive à Babylone, ça préfigure, ça annonce, si vous voulez, ce qui va arriver à l'échelle de l'univers. Mais à Babylone, comme dans tout l'univers, c'est la même vérité, c'est la même réalité. Dieu règne souverainement et il a remis toute autorité au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est dans Daniel 7 qu'on a la première fois cette expression. Jésus est ce Fils de l'homme. Et il nous assure que tout pouvoir lui a été remis dans le ciel et sur la terre. Il nous assure aussi qu'il y a des détresses à venir. Mais qu'après cela, le Fils de l'homme reviendra sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde. Et tout œil le verra et tous devront reconnaître sa seigneurie sur toute vie et sur toute chose. Vous voyez ça dans Matthieu, chapitre 24. Le livre de l'Apocalypse, la révélation accordée à l'apôtre Jean, nous le dit également. Sur le trône de Dieu se trouve qui ? Le lion et l'agneau. Il règne au-dessus de l'agitation des nations. Ce Fils de l'homme, Jésus-Christ, c'est le roi du psaume 2 qui rit quand il voit les nations s'agiter. C'est lui qui dirige avec une main de fer tout ce qui se passe dans le monde. Alors oui, il y a des raisons de s'inquiéter au niveau mondial. À notre époque, vous êtes en question sur, je sais pas, les résultats des élections américaines. Peut-être vous êtes inquiet pour l'avenir, pour le résultat des élections en France bientôt. Ou peut-être ça vous trouble, vous posez des questions sur les répercussions quant à l'Union européenne. Est-ce que ça va tenir ensemble? Quels changements il va y avoir dans les prochaines années? Peut-être on pense aux migrants, aux grands conflits mondiaux, militaires ou économiques. Mais au-dessus de tout cela, Dieu règne souverainement. Et non seulement au-dessus, mais dedans ce chaos, Dieu nous assure de sa présence par son Esprit Saint. Dieu règne dès à présent et pour toujours par sa parole. Jésus est le roi qui règne. Peut-être on pense aujourd'hui aux membres de notre famille, nos frères et sœurs en Corée du Nord, sous le régime du Juche, la doctrine de l'autonomie de Kim Jong-un, Kim Jong-il et Kim Il-sung avant lui. Eux aussi d'ailleurs, forcés littéralement de se prosterner devant des statues de plusieurs dizaines de mètres de hauteur représentant les dirigeants du pays. Dans chaque maison, il doit y avoir un portrait du dictateur en place. Eh bien, on pense au Turkménistan, avec le dictateur précédent, Niazov. Il avait construit une grande tour avec en haut une statue en or qui est montée sur un moteur et ça suit le soleil, de telle sorte qu'il fait toujours face au soleil. Et ça, c'est en plein milieu de la capitale. Et puis, son successeur qui a construit aussi une statue de une vingtaine de mètres de hauteur, en or, lui aussi à cheval, se présentant comme un conquérant du monde et de la nation. On pense à nos frères et à nos sœurs persécutés. Combien ça doit être difficile de vivre dans un tel contexte. Et nous prions pour eux. Et nous prions parce que nous savons que Dieu règne dès maintenant et pour toujours. Les royaumes et les autorités terrestres n'ont qu'un temps limité par Dieu et un pouvoir limité par Dieu. Et il y a certainement des situations qui sont menaçantes et inquiétantes pour toi personnellement. Aujourd'hui, ces dernières semaines, au niveau famille, au niveau boulot, au niveau santé, au niveau de ta foi, tu es en lutte et des fois tu as l'impression de trop souvent perdre la bataille. Mais courage et confiance, mon frère ou ma sœur, courage et confiance, Église de Cavaillon, car la réalité qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que Dieu règne à tout jamais et il est bon. Deuxièmement, si nous n'ignorons pas que nous allons dans une situation similaire, dans un système qui veut rejeter Dieu, nous réalisons aussi en voyant la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego que nous avons la possibilité de démontrer la réalité de ce règne sur notre vie par notre foi. La réalité de la bonté, de la justice, de la puissance de Dieu se voit dans la foi de ceux qui font partie de son peuple. Et sa puissance se voit ultimement dans le fait que ses disciples sont sauvés de la mort, tandis que ses ennemis périssent du sort qu'il réservait. La situation est troublée, comme à l'époque de Daniel, mais en qui as-tu mis ta foi? Et ce matin, c'est un appel pressant, parce que si ta foi n'est pas placée aujourd'hui même en Christ, alors ça ne sert à rien d'essayer de s'opposer à Dieu, au jugement de Dieu. Il vaut mieux pour toi courir vers celui qui peut réellement te sauver, Jésus, qui a donné sa vie à la croix. Son sang a coulé, il a pris le jugement à ta place. Si tu mets ta confiance en Jésus, tu peux traverser la fournaise ardente et être délivré, vivre pour toujours. Et n'est-ce pas génial, si toi, tu as mis ta foi en Jésus ce matin, que tu peux être une démonstration vivante de la réalité du règne de Dieu dans ce monde. C'est ça que l'Église de Cavaillon est appelée à être et à faire. Être une communauté qui, par la foi, démontre au monde autour que Dieu est bien celui qui règne, que c'est un Dieu puissant, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui donne la liberté, un Dieu qui est bon. Et alors il y a un choix qui peut coûter. Il y a des risques à prendre dans cette vie-là. Mais fixe tes regards sur Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, qui a vu notre condition humaine, qui a été tenté tout comme nous, mais qui est resté ferme dans sa foi. C'est là que tu vas trouver les ressources pour vivre fermement pour Dieu. Et puis troisièmement, aime ton Sauveur. Aime celui qui est descendu dans la fournaise pour délivrer ceux qui lui appartiennent. Dieu envoie un ange ici, mais dans les temps qui sont les nôtres, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Ta foi en Jésus est bien placée, c'est sûr, c'est certain. Loue Dieu de tout ton cœur, car le Dieu majestueux et puissant, le Très-Haut, élevé bien au-dessus des 30 mètres de la statue de Nebuchadnezzar, bien au-dessus des tours du quartier de la Défense à Paris, bien au-dessus des 800 et quelques mètres de la tour Burj Al Khalifa à Dubaï, ce Dieu-là a eu compassion de nous en Jésus-Christ. Il est descendu dans notre monde, dans la fournaise d'un monde en perdition, brûlant et sec, coupé de la source de la vraie vie. Le Fils de Dieu a accompli la volonté de Dieu, le Père Céleste, en venant nous sauver, en mettant fin à notre exil loin de Dieu. Il nous garde aujourd'hui dans un monde marqué par le péché. Il veille sur nous. Alors nous prions chaque jour avec confiance. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous pouvons être certains que nous traverserons cette fournaise ardente. La question de Nebuchadnezzar était: quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il est obligé d'y répondre lui-même à la fin. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Amen.